5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Je suis ravi d'être à vos côtés ce matin, d'autant que nous sommes vendredi et que le vendredi, paraît-il, tout est permis.
Oui.
Même de faire son autocritique en direct. Car voyez-vous, cette semaine, j'en ai fait voir de toutes les couleurs à l'équipe de Debout les copains. J'ai effectivement la réputation d'être un emmerdeur de première. C'est donc avec une certaine appréhension qu'Eva m'a accueilli lundi matin un cadeau dans les mains.
Oh, une serpillière, c'est formidable. Je suis ravi, écoutez.
Non, c'est un gilet.
Ah oui ? Ah mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors.
Mais rapidement, le climat s'est dégradé entre nous. Surtout avec Céline, que j'ai cru un instant, comment dire, sensible à mon charme.
Je me demande pourquoi vous êtes si gentille d'ailleurs. Vous n'auriez pas comme l'intention de vous taper un comique par hasard ?
La réponse vous suffit, faut que je développe !
Oh, ça va, c'est clair.
J'ai même réussi un exploit inédit, faire sortir de ses gonds la femme la plus gentille, la plus douce d'Europe 1, l'adorable Anne Le Gall.
T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, un fait de petit enculé de merdeux, connard.
La scène a été tellement violente que Jérôme Lacroix a dû venir à mon secours. Il s'est interposé, m'a exfiltré, il a même tenté de me consoler. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas su vraiment le remercier.
Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
Que voulez-vous ? Je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Alors en ce vendredi matin, je tenais les copains à m'excuser. Pardon Eva, Cécile, Jérôme, je serai
Céline.
Plus... Céline. Pourquoi j'écris Cécile ? C'est ma tante Cécile.
Donc là, vous devez vous excuser deux fois plus en fait.
Pardon Céline, mea culpa Céline, mea maxima culpa. Je serai plus gentil la prochaine fois. Bonjour à vous trois, comment
bonjour.
Allez-vous ?
Bonjour Julien, mais vous avez été adorable.
Hein. Mais oui en plus.
On était hyper contents de vous passer, et contents parce qu'il y avait Jérôme avec nous, de passer la scène avec vous.
C'est bien aimable, c'est bien gentil. Céline, la météo du jour.
Eh bien, les nuages reviennent. La pluie aussi, c'était prévu. Il reste encore un petit peu de soleil. On verra où. Il va faire très, très chaud en Corse encore aujourd'hui.
Bon, très bien. Quelle question, Eva, posons-nous à nos
Écoutez,
auditeurs.
Écoutez, on s'approche du week-end dans quelques heures. Vos bons plans, sorties, culture gastronomique. On adore ça. Vous nous envoyez tout ça sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci, Eva. Vous écoutez. À suivre l'essentiel de l'actualité, le journal des sports avec l'exceptionnel Jérôme Lacroix. Debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le vendredi 14 juin. Merci de l'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil, il est 5h. 5h, 7h, Julien Pierce.
Et le journal de 5h vous est présenté par Jérôme Lacroix. Rebonjour Jérôme.
Rebonjour Julien et bonjour à tous.
Les titres.
Un témoignage à la une ce matin. Loïc a été récemment secouru par deux des trois marins sauveteurs bénévoles décédés la semaine dernière en mer au large des Sables d'Olonne. Vous l'entendrez dès le début du journal alors qu'hier ces marins ont été honorés en héros par Emmanuel Macron. Les premières épreuves du bac qui commencent lundi pourront-elles se tenir ? Certains professeurs menacent de ne pas assurer leur fonction de surveillance en protestation contre les réformes du gouvernement. Et puis les filles de l'équipe de France de foot qualifiées sans jouer pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Explication dans le journal des sports à suivre.
Europe 1.
La nation pleure trois de ses enfants morts en héros. Les mots d'Emmanuel Macron hier au Sable d'Olonne lors de l'hommage national rendu aux trois marins, un sauveteur bénévole, mort il y a une semaine en tentant de porter secours à un pêcheur mis en détresse par la tempête Miguel. L'émotion depuis va bien au-delà de la Vendée. Loïc, un auditeur d'Europe 1, a été particulièrement touché par ces trois disparitions et pour cause. Lui-même récemment victime d'un chavirage, il avait été secouru par Dimitri Moulik et Yann Chagnolo, deux des sauveteurs décédés.
Le dimanche 2 juin, lors du festival aérien au Sable d'Olonne, nous, on était partis à la pêche. Et malheureusement, vers 15h, notre bateau s'est chaviré au large de Jarre-sur-Mer. On est resté 3 heures dans l'eau. Malheureusement, mon frère, un ami et un couple d'amis, sa femme est décédée. Malheureusement, dans le naufrage. Et on a attendu 3 heures dans l'eau. Et là, la SNSM est arrivée. Et ils nous ont embarqués, offert du café. Très, très, très chaleureusement, sincèrement, on se croyait perdu, mais grâce à eux, merci beaucoup. Et j'ai entièrement sympathie pour Yann, parce que c'est lui qui nous a ramenés. Je pense que Dimitri était là aussi présent. Et merci beaucoup, parce qu'on pensait bien y rester. Donc c'est un récit qui, je peux vous dire, on passe des nuits un petit peu agitées, parce qu'automatiquement on pense toujours à ça. Et en plus, avec ce qui s'est passé, c'est encore plus douloureux, quoi.
Loïc, l'un de nos auditeurs qui a appelé hier Europe 1 pour témoigner dans le Grand Journal du Soir avec Mathieu Béliard.
Témoignage exceptionnel. Hein.
À Lorient, c'est une vingtaine de membres des forces de l'ordre qui sont désormais aux trousses du jeune chauffard sans permis qui a mortellement percuté dimanche dernier un jeune garçon de 10 ans et a grièvement blessé son cousin de 7 ans. Ce dernier toujours hospitalisé dans un état grave. Le chauffard est toujours en fuite. Mais la jeune femme qui se trouvait à ses côtés au moment du drame s'est rendue hier. Elle est toujours en garde à vue. Ses premières déclarations aux enquêteurs sont pour l'heure plutôt confuses.
Europe 1, il est 5h03.
Deux mois jour pour jour après l'incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris, une première messe va y être célébrée demain par l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Pas encore pour le grand public. Seule une trentaine de membres du clergé y assistera, port du casque obligatoire. La messe aura lieu dans un endroit sécurisé, une petite chapelle derrière le chœur.
Le début du bac, c'est lundi, dernier week-end de révision.
Mais les premières épreuves pourront-elles se tenir? Certains professeurs menacent de ne pas en assurer la surveillance, notamment pour protester contre les réformes du gouvernement. Dans l'académie de Marseille, 30% des professeurs convoqués pourraient faire la grève. Le reportage de Nathalie Chevance.
Dans certains établissements, les proviseurs ont préféré prendre un maximum de précautions pour éviter une pénurie de personnel le premier jour du bac. C'est le cas au lycée Saint-Exupéry. Fait exceptionnel, la totalité des enseignants, 180 personnes, ont été convoquées pour surveiller les épreuves, alors qu'il en faudrait deux fois moins. Mais là-bas, la mobilisation s'annonce forte. Caroline, prof de philo, fait partie de ceux qui seront en grève lundi.
Je ne vais pas me présenter au lycée pour surveiller les examens. On a voté à 70% pour se mettre en grève. C'est impossible de prévoir à l'avance combien on sera exactement, mais oui, c'est un lycée où les grévistes seront nombreux le 17. Pour nous, c'est vraiment une décision difficile à prendre. C'est un crève-cœur.
Car le SNES-FSU qui appelle au mouvement affirme que l'objectif n'est pas de bloquer le bac. Laurent Tramoni, secrétaire académique du syndicat.
Nous n'avons rien contre les élèves. Nous voulons marquer le coup et nous adresser au ministre. Monsieur Blanquer, soit vous négociez, soit vous partez. Nous allons dans le mur avec la réforme du bac, la réforme du lycée et la rentrée risque d'être chaotique dans un certain nombre d'établissements. Nous faisons notre travail de lanceur d'alerte.
Et cette grève pourrait s'étendre sur toutes les épreuves, voire même sur certaines corrections. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
7 ans de prison ferme avec incarcération immédiate et 10 ans d'inéligibilité sévère réquisitoire hier contre Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret, jugé pour blanchiment et corruption. Beaucoup ont fait de cette affaire un symbole de l'impunité des puissants, a lancé le procureur. Le procès reprend lundi, parole à la défense. Le domicile francilien de Carlos Ghosn dans les Yvelines a été perquisitionné hier. Il s'agit de l'enquête sur le financement de son mariage au château de Versailles en 2016. Nathalie Loiseau ne présidera pas le groupe centriste au Parlement européen. Elle a dû renoncer après des propos désobligeants sur d'autres responsables européens. Et puis, la commune de Villeneuve-les-Avignon dans le Gard, 12 000 habitants, se prépare à accueillir un couple singulier, le couple Obama ainsi que ses filles. L'ancien président américain vient passer une semaine de vacances dans la région.
Eh bien, qu'il se repose.
C'est hyper beau, Villeneuve-les-Avignon.
C'est vrai ?
Ah, c'est magnifique.
Je connais pas du tout.
Ouais, c'est très 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 beau.
C'est à côté de chez vous ?
Non, c'est à côté. Non, non, moi je suis plus dans l'est, plus vers Nice.
Peut-être faire guide. Peut-être faire guide pour Barack.
Bah oui. Ah, c'est une bonne idée ça. Ouais. Je prends un peu cher, quoi. C'est juste.
Merci Jérôme Lacroix pour ce premier journal. Vous restez avec nous pour les sports. À la une, Neymar a été entendu cette nuit par la police.
Et oui, le footballeur star accusé de viol était convoqué à 16h, heure locale, 21h en France, dans un commissariat de Sao Paulo. Il y est arrivé 40 minutes en avance. Costume élégant, chemise blanche, avec une escorte digne d'un chef d'État, voiture de police, agent de sécurité. Le quartier autour du commissariat entièrement bouclé. Une petite centaine de supporters étaient là pour lui manifester leur soutien. Neymar est resté 5 heures au commissariat. Il a répondu à toutes les questions en niant en bloc toutes les accusations. Neymar qui est blessé, hein, il ne dispute pas la Copa América qui démarre la nuit prochaine au Brésil justement. Le sélectionneur brésilien Tite a pu échanger avec sa star.
Je lui souhaite de retrouver la santé, qu'il puisse bien récupérer. Et à partir de là, toutes les choses vont commencer à être plus claires. Je lui ai dit tout ça hier dans un message. Apparemment, sa cheville va mieux et le processus de rétablissement va être plus rapide que prévu.
Tite, le sélectionneur brésilien, lui aussi est brésilien et il devrait très bientôt être de retour au PSG. Leonardo, l'ancien joueur, devrait être officiellement nommé dans les prochains jours directeur du secteur sportif du club parisien. Il avait déjà œuvré à ce poste entre 2011 et 2013. Le départ de l'actuel sportif, le portugais Antero Henrique, dont le passage ne marquera pas l'histoire du club, doit être officialisé aujourd'hui.
Voilà, on remplace un portugais par un brésilien, ce qui évidemment ravit Céline Dacosta. Les filles de l'équipe de France ont appris une bonne nouvelle hier soir, juste avant de s'endormir.
Elles sont officiellement qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde par un drôle d'effet ricochet. C'est la défaite hier soir de l'Afrique du Sud contre la Chine qui qualifie mathématiquement les Bleus, assurés de finir le premier tour parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupe. Qualification aussi des Allemandes. À noter hier la défaite des Brésiliennes 3-2 face aux Australiennes. Le Brésil a pourtant mené 2-0.
Le chiffre du jour,
20 points d'écart au score à la fin hier de France-Lituanie en handball messieurs, 37-17 pour les Bleus. En avant-dernier match de qualification pour le championnat d'Europe l'année prochaine, large succès qui qualifie officiellement les Français pour la compétition.
Bah décidément, nos Français sont en forme, absolument, quel que soit le sport. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme et à tout de suite pour le pressing.
Il est 5h08, Julien Pierce.
Debout les copains se poursuit. Dans un instant, nous nous pencherons sur la météo avec Céline Dacosta avant de découvrir le portrait d'une personne qui a osé changer de vie. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Corinne, ex-responsable marketing qui, après un licenciement, est devenue traiteur. A tout de suite sur Europe.
Il est 5h10, Julien Pierce.
Jérôme, est-ce que vous pouvez laisser cette table basse là où elle est?
Il essaie de faire un piège dans le studio.
Non, mais c'est insupportable. Mais allez, sortez s'il vous plaît, sortez. C'est sérieux ici. Céline, les nuages reviennent et la pluie aussi.
Vous voyez, en plus, on n'a que des bonnes nouvelles. Et ça du sud-ouest au nord-est principalement et toute la journée avec un risque orageux. Alors, il reste quelques éclaircies hein, sur le nord-ouest en remontant vers le Nord-Pas-de-Calais. Le tout sous des températures quand même très douces, 22 à 24 degrés. Très chaud même près de la Méditerranée, 26 à 30 degrés. Puis on attend des records de chaleur en Corse. 39 degrés attendus à Ajaccio cet après-midi. On en reparle tout à l'heure.
Merci Céline. Eva, est-ce que nos auditeurs sont déjà réveillés?
Oui, à quelques heures du week-end, on leur a demandé leur bon plan sortie culture et gastronomique. Le bon plan gastronomique, oui, exactement. Et bien Sébastien, par exemple, nous dit sur Twitter avec le hashtag Europe 1, il nous a fait un programme, je ne vous dis pas, attention les estomacs. Dégustation de pomme ou de vodka, de cidre de calva. D'accord. Ça c'est pour les boissons. Dégustation de, voilà, dégustation de madeleine chez Jeannette, près de Caen. Dégustation et visite de la maison du biscuit à Sorteauville en Beaumont. C'est toujours en Normandie. Voilà. Bon appétit.
C'est bon les madeleines.
4-5 euros.
Les madeleines maison chaudes.
Celles de Jeannette, elles sont hyper bonnes en
ouais,
plus.
Ouais, mais les maisons là, faites par grand-mère.
Ah oui. Ah bah oui.
Voilà.
Et Jean-Seb, il nous dit dimanche à 9h au Bois de Vincennes, il y a une course pour la sauvegarde des grands singes. Allez-y. C'est à la fois ludique et intéressant. Merci, vous continuez à réagir sur Twitter.
C'est noté. Merci beaucoup, Eva.
5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez Debout les copains, l'émission qui donne envie de changer radicalement de vie, même quand c'est à la suite d'un licenciement. C'est ce qu'a vécu Corinne Cassonnet, c'est son nom, une habitante de Soisy sous Montmorency, dans le Val d'Oise. En 2017, cette jeune quinquagénaire a perdu son emploi de responsable marketing dans le milieu médical. 25 années de carrière balayées comme ça, d'un claquement de doigts. Il y avait de quoi baisser les bras, mais Corinne, elle n'est pas comme ça. Après quelques mois de réflexion pour trouver sa nouvelle voie, elle a décidé de devenir traiteur.
Fallait oser. Je me suis fait virer du jour au lendemain et pendant l'entretien, à la fois j'étais un peu effarée et en même temps, j'ai ressenti en fait un soulagement physique mais dingue et je me suis dit ça, je peux pas l'ignorer quoi. J'avais ouvert un blog de cuisine, donc les choses se sont doucement décantées et puis finalement j'ai créé, j'ai ouvert ce que j'aurais aimé trouver pas loin de chez moi mais que je trouvais pas.
Alors Corinne a pris ses décisions à l'aube de ses 50 ans, elle avait décidé de se faire le cadeau de changer de vie.
Oui, elle s'est donc installée comme traiteur il y a 2 ans, elle travaillait avec des produits qui proviennent de l'agriculture locale et raisonnée, ses plats sont cuisinés le jour même, livrés à domicile ou dans des points de retrait, avec emballage recyclable bien sûr, et son entreprise tourne plutôt bien.
On est ravis, je ne reviendrai pas en arrière, j'espère que je n'aurai pas à revenir en arrière, et on est en croissance chaque mois. On a des super bons retours. Cet été, sur le mois de juin, entre les mariages, les baptêmes, on est bookés tous les week-ends. On en a déjà 2 sur le mois de juillet. On voit une progression. Après, il faudrait encore plus de clients, plus d'activités. Mais non, on est très contents.
Alors Corinne est implantée déjà dans plusieurs villes pour pouvoir livrer ses petits plats au plus grand monde. Vous pouvez aller vous renseigner sur son site internet www.faitoutlocal.fr.
Et si vous avez aussi changer de vie, que vous voulez nous faire partager votre expérience, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou un mail à la rédaction.
Europe 1.
Et il est 5h13, Julien Pierce.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui met dans votre vie des paillettes et même dans vos L'arme. L'arme à paillettes. J'ai du mal à me relire, je suis désolé. C'est le nouveau titre de la chanteuse niçoise, Rose.
Mais oui, j'adore.
Voilà, très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1.
J'ai le cœur usé comme un disque rayé qu'on a trop écouté. J'ai le cœur up-tempo comme un tube de disco qu'on a dansé de trop. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne là. Qui fout le camp quand s'égare le diamant, quand ça change de chanson. J'ai le cœur qui prend froid comme pour la première fois sur un slow de Abba. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne. J'ai le cœur hyparate qui n'aime plus qu'on le balade, qui veut remplir des stades. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne là.
L'arme à paillettes, premier extrait de Kérosène, album qui sortira en septembre à la rentrée.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Julien Pierce.
À Lorient, une vingtaine de membres de forces de l'ordre aux trousses du jeune chauffard sans permis qui a mortellement percuté dimanche dernier un jeune garçon et grièvement blessé son cousin. La jeune femme qui se trouvait dans la voiture aux côtés du chauffeur s'est rendue hier. Elle est toujours en garde à vue. Ses premières déclarations aux enquêteurs sont pour l'heure plutôt confuses. La nation pleure trois de ses enfants morts en héros. Les mots d'Emmanuel Macron hier au Sable d'Olonne lors de l'hommage national rendu aux trois marins sauveteurs bénévoles morts il y a une semaine en tentant de porter secours à un pêcheur en détresse. Emmanuel Macron leur a remis hier la Légion d'honneur à titre posthume. Deux mois jour pour jour après l'incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris, une première messe va y être célébrée demain par l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Pas encore pour le grand public, seule une trentaine de membres du clergé y assistera. Port du casque obligatoire. La messe aura lieu dans un endroit sécurisé, une petite chapelle derrière le chœur. Et puis les filles de l'équipe de France de foot qualifiées pour les huitièmes de finale du monde par un effet ricochet de la défaite hier de l'Afrique du Sud contre la Chine. Les Françaises sont assurées d'achever le premier tour parmi les quatre meilleurs troisièmes, ce qui les qualifie d'office.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce vendredi 14 juin. Dans un instant, avec la bande de Debout les copains, nous passerons en revue la presse du jour. C'est le pressing que vous connaissez bien. Mais avant, on passe aux courses. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Julien. Il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 309 Cap Matisse. Considéré dans sa jeunesse comme un espoir classique, il n'a malheureusement pas eu la carrière escomptée en raison de problèmes de santé en passe d'être résolu. Il commence seulement à rattraper le temps perdu, comme le prouve son succès obtenu le 24 mai sur le même parcours que celui qu'il empruntera ce soir. Et le style de cette victoire me permet de vous affirmer qu'il ne devrait avoir aucune difficulté à rééditer. Alors notez bien, pour ce soir nocturne à Vincennes, réunion 1 dans la troisième course, le numéro 9, Cap Matisse.
C'est noté, merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez Debout les copains et il est l'heure de faire un tour au pressing. Non, 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 Jérôme, je vous l'ai déjà dit, je ne repasserai pas vos chemises et encore moins vos caleçons, d'autant qu'ils doivent être radioactifs ceux-là. Hein.
Pourquoi radioactif hein?
Tout de suite.
Bah, comme tous les caleçons de garçons en fait.
Hein. D'accord.
Voilà. Ça m'est bien sorti encore.
D'accord.
Ça sort bien.
Les miens aussi sont radioactifs.
D'accord.
À la une de vos quotidiens régionaux et nationaux ce matin. Politique française s'impose en première page de vos quotidiens ce matin. Libération interpelle le ministre de l'Intérieur. Violence policière. Et si on en parlait, monsieur Castaner? À la une du Parisien, c'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui fait l'objet d'une autre question. Urgence, quelle solution à la crise? Le Figaro, pour sa part, se tourne du côté de Bercy. Budget 2020, l'exécutif face au casse-tête des économies. Enfin, pour prendre un peu de hauteur, je vous conseille le magazine Week-end des Échos, qui consacre un long article à Virginie Gilio Martinez, un chef sur les sommets, c'est le titre à la une, perché à 3800 mètres d'altitude au Pérou. Le restaurant du jeune chef est devenu le laboratoire de la gastronomie responsable pour le monde entier. Et vous, les copains, quels articles vous ont tapé dans l'œil ce matin, Eva Rock?
Dites-le avec un livre, c'est le titre de l'article trouvé dans La Croix dont je voulais absolument vous parler ce matin. On part à Montpellier, dans le quartier prioritaire de la Paillade. Des habitants se retrouvent dans une boulangerie d'un centre commercial pour partager leur coup de cœur littéraire. Il a suffi d'une boulangerie, donc, d'une page Facebook et de la volonté de quelques résidents pour faire naître ce projet réjouissant sous la houlette de l'auteur et enfant du pays Nourdine Barra. Donc, livre en main, chacun débarque, seul ou accompagné, pour entendre des mots, découvrir des auteurs et puis rencontrer son voisin, raconte la journaliste Isis Perk. Entre les boîtes de Bombec et la vitrine de pâtisserie, les habitants se font une place et ils écoutent. Ils écoutent notamment Chloé, qui a choisi, par exemple, d'expliquer pourquoi et comment Voyage au bout de la nuit est devenu son livre de chevet. Mmh. Elle va même en lire un extrait avant que les questions ne fusent dans la assemblée. Et puis il y a Elijah, il a 12 ans et demi. Lui, il vient présenter son roman Dans les yeux d'Anouche de Roland Godel. Il a acheté avec son argent de poche ce livre. C'est l'histoire d'une héroïne au cœur du génocide arménien. Et il dit, lors de l'édition précédente de Dites-le avec un livre, un monsieur avait parlé d'un autre génocide et ça m'avait intéressé. Et bien ce monsieur, il est là encore. Il s'appelle Antoine Salguero. C'est une figure gitane de Montpellier. Et il vient également parler de son ouvrage de référence. Et ce jour-là, dans la boulangerie, il y a aussi Hamid. Il a la soixantaine, il est ouvrier. Et il dit, je ne monte pas des pièces de théâtre ni d'opéra, je monte des cloisons. J'ai grandi en Algérie et je veux absolument vous faire connaître cette biographie d'Abdelkader, car elle évoque les émeutes entre les Arabes et les chrétiens. Je crois que ça résonne avec l'actualité du moment. C'est le seul livre qu'il lit depuis des années. Et quand ce cercle de lecture se termine, eh bien les livres sont déposés sur le comptoir, à chacun de s'en emparer, c'est gratuit. Et La Croix précise par ailleurs, dans un encadré, que de nombreuses boîtes à lire sont organisées dans des villes et des villages de France, des petites bibliothèques de rue qui sont garnies par les habitants qui déposent ou empruntent des livres gratuitement afin de favoriser l'accès à la lecture. Il y a un site qui répertorie toutes ces initiatives, www.boitealire.com, lire.com. J'y suis allée, c'est très bien fait et ça donne vraiment envie de participer à ces initiatives réjouissantes et c'est à lire dans La Croix. Ça m'a vachement ému ce matin.
C'est vachement bien comme initiative. Ouais. Vous lisez les amis, vous?
Oui, moi beaucoup, mais là ça m'a donné envie d'aller partager mes livres en fait, parce que j'en ai tellement que je ne sais plus quoi en faire, donc je vais aller les donner à la boîte à lire.
Céline Dacosta.
Eh bien moi, j'ai choisi un article dans Libération que m'a suggéré Eva, et je l'en remercie, qui revient sur la Coupe du Monde féminine de foot, non parce que c'est vachement bien, de 1971, une compétition non officielle qui s'est déroulée au Mexique et où l'Argentine a brillé et a même marqué le foot argentin grâce à un match, celui du 21 août. Elba Selva, la numéro 10 de la sélection féminine argentine, a marqué 4 buts somptueux contre les Anglaises dans un stade Azteca plein à craquer au bord de l'explosion. Une folie à l'époque, un an après le mondial masculin, qui a déclenché une véritable fièvre avec des sponsors, les médias qui s'y intéressent, ça n'était jamais arrivé, et des stades bondés. C'est le deuxième mondial féminin et cette ambiance, c'est une première pour les footballeuses avec seulement à l'époque 6 sélections, l'Angleterre, le Danemark, l'Italie, la France, le Mexique et pour la première fois l'Argentine. Alors 17 joueuses argentines qui n'avaient rien, pas un pesos pour venir au Mexique, pas d'équipement, pas d'entraîneur, pas de médecin, pas même de crampons. C'est l'organisation mexicaine qui a tout payé. Elles n'ont eu que quelques jours pour s'entraîner avec ces fameux crampons, elles n'en avaient jamais porté. Ce match contre les Anglaises a marqué l'histoire du foot argentin et une photo des joueuses de l'époque accrochée sur le mur de son club a littéralement hanté Lucila Sandoval. Elle a 49 ans, elle a été pendant 20 27 ans, gardienne de but en première ligue, tellement hantée qu'elle est partie à la recherche de ses femmes, de ses pionnières. Elle en a retrouvé 10 sur les 17 de l'époque. Elba Selva, la quatruple buteuse face aux Anglaises, mais aussi Betty Garcia, Angelina Cardozo ou encore Teresa Suarez. Elles ont toutes 70 ans ou plus aujourd'hui. Et elles se souviennent avec émotion de cette période complètement folle qui a duré un mois de gloire, de lumière avant de reprendre leur vie et de retomber littéralement dans l'oubli. Elles racontent ce premier match perdu contre les Mexicaines, 3-1, l'arrivée de Norberto Rosas qui leur propose, après les avoir vus jouer, de devenir leur entraîneur pour le deuxième match contre les Anglaises.
C'est génial.
Donc, on connaît l'issue. Il y a plein de petites anecdotes savoureuses dans l'article. Une aventure folle à lire dans Libé, une de celles qui pourrait faire un joli film. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un projet de loi est en discussion en attendant pour faire du 21 août la journée de la footballeuse en Argentine. Et grâce à Lucia Sandoval qui leur a trouvé un sponsor, elles seront ces joueuses argentines ce soir au Havre pour le match Argentine-Angleterre. Et autant vous dire qu'après avoir découvert leur histoire, on a très envie d'encourager l'Argentine ce soir.
Ouais, la boucle est bouclée, c'est fantastique comme
génial,
histoire.
La journée de la footballeuse, c'est pas
Argentine.
Mal,
c'est
en Argentine.
En France, on devrait le 7 juillet, aussi. La journée de la footballeuse française.
Quand elles célèbrent
le trophée.
Exactement.
Voilà.
Ouais.
C'est pas mal. C'est pas mal.
Ce serait une bonne idée.
Vous avez d'autres suggestions à
nous
faire ?
Alors vous parliez de sujets qui nous ont tapé dans l'œil. Moi, il y en a un qui m'a attiré l'œil ce matin. D'abord, dans l'équipe, à la veille de la finale de rugby du championnat de France de rugby, Toulouse-Clermont, c'est demain. Entretien dans l'équipe avec le Sud-Africain de Toulouse, Cheslin Kolbi. Le titre, la chanson Les Sardines me donne beaucoup d'énergie.
Non,
j'ai pas du tout parlé de ça, mais c'était juste pour vous le mettre dans la tête.
C'est Linda Costa,
c'est bon les Sardines.
Oui, mais vous arrêtez tout de suite aussi.
Une tranche de pain grillé.
Et puis par ailleurs, notez que demain, Toulouse va redevenir champion de France en.
Je vous rappelle qu'elle est au régime.
Vous savez que vous êtes journaliste sportif sur une radio généraliste et donc vous êtes tenu à une certaine neutralité dans vos opinions quand même.
C'est une prévision.
Voilà.
En fait, je voulais pas du tout parler de ça. Un peu d'évasion ce matin dans les pages du Parisien aujourd'hui en France. Entretien.
On sent que c'est vendredi hein, quand même. Hein.
Il y a relâche.
Entretien dans le Parisien avec Jacques. C'est le hasard, il est dans la Haute-Garonne, mais ça n'a rien à voir, je vous promets. Il s'appelle Jacques, la soixantaine, presque monsieur tout le monde, qui nous dit « Oui, j'ai gagné 32 millions d'euros ». Mais j'en fais pas tout un plat, voilà Jacques, c'est le plus grand gagnant de l'année à l'euro-million, 32 676 834 euros précisément. Alors il raconte, j'ai appris ma bonne fortune en pleine nuit à 2h du matin, je me suis réveillé pour boire et aller aux toilettes. J'arrivais pas à me rendormir, alors j'ai consulté les numéros du loto sur mon téléphone, enfin de l'euro-million. J'ai pas eu besoin de m'asseoir parce que j'étais déjà dans mon lit heureusement. Alors il avait validé deux bulletins, rien sur le premier mais sur le second qui était un flash à 2,50€. Jackpot, son premier réflexe, c'est de ne pas y croire, puis d'y croire, puis il est allé voir finalement combien il avait gagné sur le site de la Française des Jeux. Le chiffre 32 suivi de 6-0.
On s'endort pas.
Ça fait son petit effet, exactement. Alors c'est intérieurement que Jacques saute alors de joie, il dit rien à personne, mais effectivement il l'endort pas de la nuit. Le lendemain, il décide de cacher le ticket originel dans la poche d'une chemise, pendu dans une armoire qu'il recouvre d'un sweatshirt. Il ne l'a plus touché jusqu'au paiement. Quelques jours après, alors aujourd'hui, il raconte, ses frères, ses sœurs, sa fille ne sont toujours pas au courant qu'il a gagné. Elles seront au courant quand je l'aurai décidé. Mmh. C'est ce qu'il dit. Alors, bah d'ailleurs, très bientôt, il va quitter son emploi. Le lendemain du pactole, il était en repos, ça tombait bien. Il a tout de même prévenu sa hiérarchie qu'il avait gagné. Puis comme il était proche de la retraite, bah, il prend ses jours de congé et il va partir. Mais en attendant, eh bah, il continue de travailler. Pour l'anecdote, le Parisien nous raconte aussi quelques histoires assez cambolesque d'autres gagnants, comme celle de cet habitant de l'Essonne qui avait caché son ticket gagnant derrière l'armoire de sa chambre, démonté puis remonté. Alors lui, il avait gagné 12 millions au loto. Quelques années, un premier gain de 10 000 euros. Il y en a quand même.
C'est dingue. Hein ouais. La chance.
En tout cas, j'aime bien la philosophie et la réaction de Jacques, là, le gagnant de combien déjà
32 millions. Ouais.
Ah oui.
Bon. Moi, si j'apprends que mon père a gagné 32 millions et qu'il m'a rien dit,
ça en fait des matinales à présenter. Hein.
Souvent, c'est ça, les témoignages de gagnants, ils le disent pas à leur entourage.
Oui, mais parce que généralement, ils préparent des surprises pour l'entourage. Alors, voilà. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ferais. Moi, j'achèterais une maison à ma maman.
Vous les invitez au reste.
Ça, je suis pas sûr. Vous allez me ruiner. Merci à vous trois. Le pressing baisse le rideau pour cette semaine.
Europe 1.
Il est 5h28, Julien Pierce.
Debout les copains se poursuit avec la météo de Céline Dacosta, suivie du journal de 5h30 d'Hélène Zélani. Et puis nous retrouvons ensuite le docteur Ichou qui va nous parler d'un livre au titre accrocheur. Oubliez les régimes, ils font grossir. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h29, Julien Pierre.
Céline Dacosta, retour de la pluie malheureusement et des orages.
Oui, des averses ce matin, surtout du sud-ouest au nord-est. Pour les autres, encore pas mal de nuages et quelques éclaircies. Les températures, elles restent douces. Vous voyez, ça c'est une bonne nouvelle, 22 à 24 degrés. Même près de la Méditerranée, c'est même très chaud, 26 à 30 degrés. Très chaud également en Corse, on en reparlait avec ce sirocco qui souffle. On attend des records de chaleur en Corse aujourd'hui, jusqu'à 39 degrés attendus à Ajaccio.
Merci Céline Dacosta.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez Debout les copains, votre 5 à 7 sans prise de tête. Dans la demi-heure qui vient, on va faire le plein d'infos avec Hélène Zellani, le plein de culture avec la bande de Vendredi Les Bons Tuyaux, au programme des bandes dessinées, des jeux vidéo et une série dont le personnage principal n'est autre qu'un cheval au caractère de cochon, ça promet.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller, les 5h30. 5h, 7h, Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Hélène Zellani. Bonjour Hélène.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Toujours aucune trace du chauffard qui a renversé et tué un enfant à Lorient. Sa passagère a été arrêtée mercredi soir. Elle risque 7 ans de prison pour non-assistance à personne en danger. Nathalie Loiseau ne briguera pas la présidence du groupe centriste au Parlement européen. Elle a dû faire marche arrière après la polémique sur des propos très critiques vis-à-vis de ses alliés au Parlement. Et puis ils sont déjà attendus comme des stars. La famille Obama au complet arrive ce soir à Villeneuve-les-Avignon. Le chauffard de Lorient, toujours en cavale. L'avis de recherche du jeune homme de 20 ans qui a renversé deux enfants n'a pas encore permis de le retrouver. En revanche, sa passagère s'est rendue avant-hier soir. Elle vient de passer une deuxième nuit en garde à vue. Et donc, Hélène Terzian, la traque du chauffard continue.
La procureure de la République de Lorient l'a assuré. Les policiers, une vingtaine selon nos informations, restent pleinement mobilisés pour retrouver le chauffard. Pour cela, les enquêteurs peuvent désormais compter sur l'audition de la passagère interpellée mercredi soir après qu'elle s'est rendue d'elle-même chez un particulier. Une audition que les policiers prennent avec précaution. Ils tentent de vérifier et d'exploiter tout ce que peut leur dire la jeune femme. Mais à ce stade, une certitude, son témoignage ne leur a pas permis de localiser le fuyard. La garde à vue est prolongée, mais la procureure Laureline Perfitte l'a martelé. La justice doit rester très discrète sur les éléments recueillis.
J'accepte de répondre à quelques-unes de vos questions, mais je ne serai pas en mesure d'y répondre forcément en raison des circonstances, c'est-à-dire l'enquête en cours, un auteur en fuite.
Les enquêteurs continuent en tout cas d'explorer toutes les pistes et comptent toujours beaucoup sur l'appel à témoins renouvelé hier pour retrouver le jeune homme. Depuis sa diffusion, il croule sous les appels. Ils en reçoivent en moyenne une centaine par jour. Quant à la piste d'éventuels complices, elle n'est pas exclue.
Hélène Terzian à Lorient pour Europe 1. Hier, un millier de personnes ont participé à la marche blanche en hommage au petit garçon de 10 ans tué dimanche et à son cousin de 7 ans, toujours dans un état grave. Le congrès des maires des villes de taille moyenne s'est ouvert hier à Albi dans le Tarn. Édouard Philippe est attendu aujourd'hui pour la clôture des travaux. Les maires espèrent des clarifications du Premier ministre, notamment sur la compensation de la taxe d'habitation pour les communes. Les écoles maternelles et primaires d'Ajaccio, publiques comme privées, vont rester fermées aujourd'hui. C'est un arrêté municipal à cause de la chaleur et de la pollution. Météo France prévoit en effet des températures jusqu'à 39 degrés en Corse avec en prime une pollution aux poussières venues du Sahara.
Europe 1, il est 5h32.
Nathalie Loiseau jette l'éponge. Elle ne briguera pas la présidence du nouveau groupe centriste au Parlement européen.
Et oui, elle a été rattrapée par les propos fort peu diplomatiques tenus devant des journalistes à l'encontre de ses nouveaux collègues. Un coup dur pour Emmanuel Macron qui comptait sur elle pour piloter le groupe parlementaire pivot du Parlement. Au-delà de ce départ, c'est bien la stratégie européenne du chef de l'État qui est menacée, Isabelle Horry.
Mais oui, le nouveau groupe centriste, ça devait être la tête de pont pour renforcer la présence française au Parlement européen, un Parlement où l'Allemagne se taille la part du lion depuis des années. Depuis des mois, le terrain avait été préparé, mais l'atterrissage raté de Nathalie Loiseau remet tout en cause. Les Français n'auront pas la présidence du groupe, pourtant essentielle pour peser sur l'agenda. Voir tout ça voler en éclats, c'est terrible, se désole un marcheur. L'arrogance française est pointée du doigt à Bruxelles et ça tombe bien mal pour le président de la République qui tente en parallèle de peser sur les nominations à la tête des institutions européennes. Il y a quelques jours, un proche expliquait que le dispositif européen d'Emmanuel Macron s'appuyait sur deux clés de voûte, Nathalie Loiseau au groupe et Michel Barnier à la présidence de la Commission européenne. Il a fallu débrancher la première et pour le second, rien n'est encore acquis. En fait, à ce stade, En Marche a juste réussi à faire changer le nom du groupe des libéraux et centristes. Tout un programme, il s'appelle désormais Renew Europe, renouveler l'Europe en français.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Puis on vient de l'apprendre, un accord a été trouvé dans l'Union européenne sur un futur budget pour la zone euro. Annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire après une nuit de discussion à Luxembourg. Un budget qui, dit-il, aidera les pays de la zone euro à devenir plus compétitifs.
Les États-Unis accusent l'Iran d'être responsable des attaques en mer d'Oman.
Oui, deux pétroliers norvégiens et japonais ont été visés par des bombes hier en mer d'Oman, région déjà sous tension à cause de la crise entre les États-Unis et l'Iran. Le secrétaire d'État Mike Pompeo estime d'ailleurs que l'Iran veut empêcher le passage du pétrole par le détroit d'Ormuz. Téhéran, de son côté, dénonce des affirmations incendiaires et une campagne anti-iranienne. Et puis des invités de marque attendus avec impatience ce soir à Villeneuve-les-Avignon. Barack Obama, avec sa femme et ses deux filles, devrait atterrir à l'aéroport d'Avignon vers 21h30. À bord, une quinzaine de personnes, dont de nombreux gardes du corps. La famille va passer une semaine de vacances dans une maison louée dans cette commune du Gard.
C'était le journal d'Hélène Zellani. Merci Hélène, Hélène, la muse de tant de chanteurs.
Quand même.
On
l'a attendu toute la semaine.
Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie.
Ah, qu'il était beau!
Rock voisine, Hugo Frey, Julien Clerc, tous sont donc tombés sous le charme d'Hélène Zellani. Eva, je vous sens jalouse. Faut pas! Ah, elle connaît pas.
Bah, les yeux ouverts, déjà, c'est pas elle, regardez. Elle dort, elle dort.
C'est Ne pleure pas, Eva, du regretté Michel Delpech.
Ah, je la connaissais pas.
Ah, bah,
c'est
vous la connaissez pas. Voilà, je vous apprends quelque chose. Ouais. Allez, on passe au journal des sports.
Y a pas une chanson d'Eva Rock voisine, non? T'as pas ça?
Il est en forme, le Jérôme Lacroix, ce matin. Je sais pas ce qu'il a mangé cette nuit. Bon, à la une du changement dans les hautes sphères, vous dites.
Au PSG, exit Antero Henrique, le directeur sportif des champions de France de foot. Le Portugais qui ne faisait pas l'unanimité va être remercié. Bienvenue à Leonardo, le Brésilien de 49 ans, ancien joueur du club. Il devrait très prochainement prendre les commandes de la gestion sportive au PSG, des fonctions qu'il avait déjà occupées entre 2011 et 2013, au tout début de la période qatari. Des patrons qui lui font confiance. Ce retour, est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, mais, répond l'ancien bleu et ancien du PSG, Alain Roche, consultant européen.
Sur le papier, ça paraît très bien maintenant, c'est 6 ans après. Le fair play financier entre en jeu aussi. Il y a beaucoup, on sent, de tension aussi au sein du vestiaire entre certains joueurs, même avec l'entraîneur. Donc je pense que la tâche sera beaucoup plus compliquée que ne l'a été lors de sa première venue.
Neymar, accusé de viol au Brésil, a été entendu cette nuit par la police à Sao Paulo. Il a nié en bloc les accusations et se dit, je cite, « tranquille, la vérité viendra tôt ou tard », a-t-il déclaré. Les filles de l'équipe de France officiellement qualifiées pour les 8e de finale du Mondial, qualification acquise hier sans jouer, par effet ricochet de la défaite de l'Afrique du Sud 1-0 devant la Chine. Lundi à Rennes contre le Nigeria, un nul suffira aux Bleus pour assurer la première place du groupe.
Immense événement à venir demain et dimanche. Et quel événement? Les 24 heures du Mans.
Et deux Toyota partiront en première ligne, plus rapide grâce notamment à leur système de propulsion hybride à récupération d'énergie, alors que les concurrents ont des moteurs thermiques plus classiques et moins puissants. Confirmation du statut de favori de Toyota cette année encore après un doublé l'année dernière. Des nouvelles de Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France cycliste, doit rester 48 heures en soins intensifs à l'hôpital de Saint-Etienne, gravement blessé avant-hier matin à l'entraînement. Alors qu'il reconnaissait une étape du critérium du Dauphiné, il a été opéré pendant près de 4 heures hier pour des blessures au fémur, au coude et aux côtes.
La personnalité du jour.
J'ai choisi Estelle Mosselli, vous en souvenez, la boxeuse, oui, championne olympique. Elle tente ce soir de décrocher sa première ceinture mondiale chez les professionnels en poids léger. Combat contre une Suédoise.
Plutôt sereine avant ce combat parce que j'ai vraiment eu une bonne préparation. Même mentalement, je me sens très bien. Je retrouve des sensations que j'ai pu avoir avant les Jeux. Je n'avais pas encore retrouvé ça. Hein. Si je perds, je ne pourrais pas m'en vouloir, je pense. Si tout se passe bien et que je recrée les choses sur le ring. Mais voilà, j'ai fait le maximum que je pourrais faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à démontrer les choses sur le ring.
Estelle Mosselli avec Gian Bergaoui.
Elle est très sympa, Estelle Mosselli. Je l'ai rencontrée une fois avec son mari.
Tony Iloka.
Il est assez impressionnant quand même. Ah, hein. Oui, ah bah, physiquement, ouais. On se sent tout petit. Merci Jérôme Lacroix. On vous retrouve après le journal de 6h pour le journal de la Coupe du Monde féminine de foot.
Europe 1.
Il est 5h38, Julien Pierre.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7, où tout est permis, sauf de faire un régime. Et oui, ils font grossir, c'est le titre d'un livre que va nous présenter dans un instant le docteur Ichou. Et puis juste après, on ira faire un tour à l'hippodrome de Vincennes pour les pronostics hippiques de José Coves. Bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1.
Et des 5h40, Julien Pierce.
Vous écoutez Debout les copains, la matinale où Céline Dacosta consulte les hectopascales pour que vous enfiliez le futal idéal. Alors Céline, reine du dressing, que devons-nous porter aujourd'hui?
Un peu de soleil encore. Oui, alors qu'est-ce qu'on va porter au niveau des pieds? Des chaussures fermées pour ceux qui habitent entre le sud-ouest et le nord-est, parce qu'il va y avoir encore un petit peu de pluie. Et alors les nu-pieds quand il pleut, c'est l'horreur. Voilà, ça c'est le petit conseil nu-pieds. Pour les autres, il va faire assez doux. Donc la petite laine ce matin parce qu'il reste un peu de fraîcheur, mais cet après-midi franchement ça va être plutôt sympathique, 22 à 24 degrés en moyenne, très chaud près de la Méditerranée, encore plus en Corse hein, où on attend des records de chaleur avec ce sirocco. Je rassure les Corses, ça va baisser dès demain. Pour le ciel, donc des pluies, il reste encore un petit peu de soleil dans le nord-ouest, des éclaircies qui vont gagner même l'Île-de-France cet après-midi, donc le temps est encore plutôt pas mal. Et puis demain ça sera un petit peu agité, mais pas mal aussi sur le nord-ouest, on verra ça tout à l'heure.
Merci beaucoup Céline Dacosta. Eva, qu'ont prévu nos auditeurs pour ce week-end?
Alors, on a par exemple Marie-Claire qui nous répond sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Elle va s'occuper de son jardin, elle va nettoyer l'enclos des poules, surveiller son chien qui vient d'être opéré et finir chez des amis pour une soirée, samedi soir, un dîner entre amis. Je lui ai proposé qu'on les rejoigne
pour
samedi soir. Oui. Non, qu'est-ce que vous en pensez?
Même pour surveiller les poules?
Ah, pour surveiller les poules? Vous avez prévu quoi vous, Céline Dacosta?
Rien de spécial avec les enfants, voilà, faire une petite sortie entre les gouttes et ça va être très sympa.
Bon.
Et dormir aussi. Ah oui,
pas mal.
Et cuisiner aussi.
Je vous donne d'autres bons plans tout à l'heure. Vous continuez à réagir sur
noté.
Twitter avec
Merci
l'hashtag
beaucoup Eva Rock.
5h, 7h.
Julien Pierce sur Europe 1.
Il est l'heure de la question santé. Comme nous sommes vendredi, c'est un suppo et on lit. Bonjour Marcel Ichoux.
Bonjour Julien.
Quel livre docteur va-t-on rajouter à notre bibliothèque santé aujourd'hui?
Mais écoutez, il s'agit d'un livre de Sophie Deram, publié aux éditions Marabout. Son titre est quand même assez provocateur. Oubliez les régimes, ils font grossir.
Exactement.
Sophie Deram est chercheuse en neurosciences du comportement alimentaire et diététicienne nutritionniste. Elle s'appuie sur les dernières recherches en neurosciences et nutrigénomique. Sophie Deram fait la démonstration que toute restriction alimentaire dans le but de maigrir est non seulement vouée à l'échec, mais totalement néfaste pour votre santé. Au-delà de ce que nous mangeons et de quelle quantité nous mangeons, c'est plutôt la manière dont nous mangeons qui est importante. Le métabolisme du corps humain ne se résume pas à un bilan calorique et à sa comptabilité, mais fait intervenir des paramètres émotionnels et neurologiques essentiels à l'équilibre et à la régulation de notre poids.
Alors vous avez employé un terme assez barbare, hein, le terme de nutrigénomique. De quoi s'agit-il ?
L'ensemble des réactions chimiques de l'organisme trouve sa source au niveau de nos gènes, qui permettent de donner aux organes l'information permettant leur production. Chaque individu a des caractéristiques génétiques spécifiques qui s'expriment dans un contexte et un environnement unique. Il n'y a pas deux individus similaires et l'étude de la nutrigénétique étudie la variabilité du comportement alimentaire et de la régulation du poids en fonction de chaque profil génétique. Il en ressort que ce qui peut être bénéfique à l'un peut être néfaste à l'autre. Pour en donner un exemple, l'auteur a étudié la synthèse de la protéine périlépine qui contrôle l'entrée et la sortie de la graisse dans les cellules adipeuses. Cette seule protéine a un impact majeur sur le poids, le métabolisme et la susceptibilité à la prise de poids.
Et vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le livre de Sophie Deram aux éditions Marabout. Son titre, Oubliez les régimes, ils font grossir.
Europe 1,
il est 5h44, Julien Pierce.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 où ça swing de bon matin avec Redbone, Come and Get Your Love. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Come and Get Your Love, qui avant d'être une chanson utilisée dans une pub, a été un énorme tube dans les années 70. D'ailleurs, le groupe américain donne toujours des concerts.
Europe 1. Il est 5h46, Julien Pierce.
Debout les copains continuent à suivre vendredi les bons tuyaux avec au programme deux bandes dessinées très différentes, des jeux vidéo à gogo et un dessin animé cynique à souhait. A tout de suite sur Europe 1.
Et il est 5h47, l'essentiel de l'actualité, Julien Pierce.
À Lorient, une vingtaine de membres de forces de l'ordre aux trousses du jeune chauffard sans permis qui a mortellement percuté dimanche dernier un jeune garçon et grièvement blessé son cousin. La jeune femme qui se trouvait dans la voiture aux côtés du chauffeur s'est rendue hier, elle est toujours en garde à vue. Ses premières déclarations aux enquêteurs sont pour l'heure plutôt confuses. 7 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité, sévère réquisitoire hier contre Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret, jugé pour blanchiment et corruption. Beaucoup ont fait de cette affaire un symbole de l'impunité des puissants, a lancé le procureur. Le procès reprend lundi avec parole à la défense. Le domicile francilien de Carlos Ghosn dans les Yvelines perquisitionné hier. Il s'agit de l'enquête sur le financement de son mariage au château de Versailles en 2016. Et puis Nathalie Loiseau ne présidera pas le groupe centriste au Parlement européen. Elle a dû renoncer après des propos désobligeants sur d'autres responsables européens qui avaient fuité dans la presse.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 14 juin. Allez, on passe aux courses. Bonjour José Coves.
Julien, bonjour. À Vincennes, le trot c'est trop. Ce soir, au départ de la troisième course, voici mes 5 préférés. D'abord, le numéro 9, Cap Matisse. Il vient de se balader en réalisant un super chrono. C'est le cheval à battre. Si le 12, Bebop Ofor, ne disjoncte pas, il finira tout près du vainqueur. Partisan de la course en tête, Bachar, le 11, à la dernière fois réussi sur une échappée victorieuse. Attention, le Scandinave Cocktail Fortuna, le numéro 1, a déjà démontré un réel talent sur nos pistes. Le 4 Kinamo Jet est un bon candidat, à une place, mais pas mieux. Ensuite, on peut retenir le 7 Candidat d'Ortige, il donne toujours le meilleur de lui-même. Le 8 Nancy America avec Osulki, Franck Nivard, le sacré plus. Et enfin, le 10 Bleu Ciel pour une 5e place. Mon ticket pour la 3e course vers 20h15, en priorité le 9, le 12, le 11. L'As et le 4, et ensuite le 7, le 8 et le 10.
Alors si je vous comprends bien, José, il faut faire attention à l'As, hein, Cocktail Fortuna.
Oui, l'an dernier, ce Scandinave s'était imposé à la manière des forts par deux fois sur nos pistes. Cette saison, après un tour de chauffe en Suède, il nous revient affûté en vue de cet objectif. Julien, ce Cocktail Fortuna est à consommer sans modération.
Merci José Coves.
Il est 5h49.
5h, 7h.
Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Et l'émission continue avec les conseils culturels. Vendredi, les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saffre en direct de Los Angeles pour les jeux vidéo et Mathieu Charrier pour les BD. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et comme chaque vendredi, Mathieu, vous ne me faites pas une âne légale. Hein. Oui. Déjà, à chaque fois que je lui dis bonjour, elle me dit rebonjour. Ça va, hein. Ça va.
On sent qu'il a accumulé beaucoup de rancœur.
Voilà, une semaine, ça va. Hein. Bon, Mathieu, vous nous parlez de bande dessinée. Aujourd'hui, vous avez choisi pour nous l'Odyssée d'Hakim.
Oui, signé Fabien Toulmé, bande dessinée dans laquelle il raconte l'Odyssée d'Hakim, donc un réfugié syrien de Damas jusqu'à Aix-en-Provence. Alors c'est tellement dense qu'il y a plusieurs tomes. Là, c'est le tome 2 qui sort, sous-titré De la Turquie à la Grèce. Hakim est donc en Turquie, tout semble bien se passer, jusqu'au jour où des manifestations éclatent dans le pays. Les Syriens, et plus globalement les immigrés d'ailleurs, sont là-bas très mal vus, et donc Hakim doit de nouveau fuir. Sa femme, elle, veut rester avec sa famille. Entre-temps, il y a eu un bébé, un fils, mais il doit envisager de monter, vous savez, sur l'un de ces canaux de fortune que l'on a tous en tête pour rejoindre l'Europe. La suite, vous la découvrirez dans le livre. Cette BD, donc, basé sur le témoignage d'Hakim, hein, rencontré par Fabien Toulmé. L'auteur explique que le jour du crash, vous rappelez, de la Germanwings qui avait fait 150 morts, il avait été choqué de constater qu'au JT, cette actualité dominait toutes les autres et qu'à la fin, en bref, le présentateur revenait sur la mort de 400 migrants en Méditerranée. C'est donc un récit poignant que l'on a déjà lu ou vu, bien sûr, mais qu'il est toujours bon de lire ou relire, chaque histoire, chaque expérience étant unique. Le dessin de Fabien Toulmé lui se rapproche de celui de Riyad Sattouf, vous savez, tout en rondeur, donc on pense bien sûr à l'Arabe du futur, les deux d'ailleurs valent le coup. L'Odyssée d'Hakim, tome 2, et relisez le 1 au passage, ou lisez le tout court, c'est chez Delcourt.
Et puis vous vouliez aussi nous parler de Mickey All-Stars.
Oui, puisque comme vous le savez peut-être, on fête cette année les 90 ans. Mickey apparu en culotte courte sur un bateau à vapeur avec ses 6 grandes oreilles. Alors, pour fêter l'événement, les éditions Glénat ont demandé à 50 auteurs de réaliser une page de Mickey, un gag unique. Le cahier des charges, c'est qu'il doit rentrer par une porte au début de l'histoire et sortir par une autre à la fin. Alors ça donne Mickey sur des skis, Mickey au milieu des dinosaures, Mickey qui sauve Winnie des griffes d'un dragon. Voilà, on sent que les auteurs se sont éclatés à faire ça. Il y a notamment du
c'est
Clark,
Minnie, non, c'est
Florence
pas Winnie.
Sestac. J'ai dit quoi, Winnie?
Ah,
Minnie.
Oui, oui, c'est Minnie.
Bah, il aurait pu
heureusement que vous êtes là. Winnie, c'est l'ourson. Hein.
Winnie oui. aurait pu être là, mais en l'occurrence, c'est Minnie. Vous avez raison.
D'accord. Okay.
C'est évidemment assez inégal, mais on prend un vrai plaisir à redécouvrir Mickey par ce biais. Ça s'appelle donc Mickey All Stars. C'est chez Glénat.
Eh bien, on va y jeter un œil avec plaisir.
J'espère
merci,
bien.
Mathieu Charrier. Allez, on prend pour la dernière fois la direction de Los Angeles. Retrouvez Clément Le Saffre en direct de l'E3, le salon mondial des jeux vidéo. Bonjour Clément.
Bonjour à tous.
Alors, vous avez arpenté le salon pendant 6 jours, hein, depuis le début de la semaine. Qu'est-ce que vous en retenez ?
Eh ben, je vais d'abord évacuer la seule déception de cette E3. Finalement, on pensait en apprendre plus sur les futures consoles et le cloud gaming, mais finalement, les annonces, notamment celles de Xbox, ont été un petit peu timides, c'est dommage. Mais pour compenser, ben, on a vu énormément de jeux pendant 6 jours. Moi, j'ai eu plusieurs coups de cœur, je vais vous les donner. Et tout d'abord, honneur aux Français avec Watch Dogs Légion d'Ubisoft, hein, l'idée de pouvoir incarner n'importe quel passant dans les rues de Londres, bah c'est hyper excitant, c'est du jamais vu tout simplement. Alors je suis aussi très impatient de pouvoir enfin jouer à Cyberpunk 2077, c'est un jeu d'action en monde ouvert situé dans un futur ultra technologique, c'est inspiré de Ghost in the Shell et de Blade Runner, voilà c'est très prometteur aussi. Et puis la mode est au remake des jeux cultes et ça donne de belles choses, notamment Zelda Link's Awakening, je vous en parlais mercredi. J'ai pu jouer un peu et je suis tombé amoureux du design, voilà, j'ai joué 20 minutes et ça m'a suffi, c'est vraiment très très mignon. Et puis un peu moins mignon dans ce cas-là, mais aussi très nostalgique, c'est le remake de Final Fantasy VII. J'y ai joué il y a quelques heures, là, je viens de le laisser tomber, et c'est vraiment magnifique. Enfin, moi, j'ai passé 20 minutes dessus, et c'est extraordinaire.
C'est pour ça que vous êtes si fatigué, Clément, en fait. Vous arrêtez pas de jouer.
Exactement.
Comment vont les pouces?
Les pouces sont bandés, là, j'ai mis des straps dessus, les muscles sont fatigués.
C'est un sportif de haut niveau. Bon, Clément, j'imagine qu'en une semaine, vous avez fait aussi des découvertes, des choses. Vous êtes tombé sur des jeux que vous n'attendiez pas.
Oui, c'est tout l'intérêt finalement de ce genre de salon où des petits jeux bénéficient d'une lumière un peu inhabituelle pour eux. Donc moi j'ai retenu notamment 12 Minutes, c'est un jeu en huis clos filmé depuis le plafond d'un appartement. On y voit un homme coincé dans une boucle temporelle car il doit empêcher un drame de se produire, en l'occurrence le meurtre de sa femme. Et toutes les 12 minutes, eh bien, ça recommence si vous n'avez pas trouvé la solution. Et ça, on nous promet une durée de vie de 6 à 8 heures, c'est quand même énorme sur un petit jeu indépendant comme ça. Et j'ai aussi bien aimé, dans le genre indépendant toujours, Way to the Woods, dans lequel on incarne un cerf avec des bois qui aspirent et diffusent de la lumière. C'est hyper original comme concept. Les graphismes sont vraiment splendides. J'aurai l'occasion de vous en reparler de celui-là et puis de tous ces jeux dont je viens de vous parler quand ils sortiront dans les mois à venir.
Ben, on y compte bien. Merci Clément Le Saffre pour toutes ces infos depuis Los Angeles. Rentrez bien à la maison. Pour conclure ce vendredi Les Bons Tuyaux, je me tourne vers Eva Rock. Eva, vous nous conseillez ce matin d'aller sur la plateforme Netflix pour un dessin animé pour les enfants ?
Alors absolument pas. Trop de drogue, trop d'alcool, trop de sexe pour vos rejetons.
Oh,
non,
tout
non.
De suite.
BoJack Horseman, c'est une série animée pour les grands. Alors BoJack, c'est un cheval. Il a été héros d'une sitcom à succès, c'était il y a une vingtaine d'années. Et puis depuis, ben, plus grand-chose dans sa vie. Il traîne, il picole, il fait preuve de cynisme. N'aime guère que lui d'ailleurs. Mais pour des raisons financières, eh bien, il va finir par accepter le principe d'une biographie. Alors sauf qu'il va devoir se confier à un nègre, c'est une jeune femme en l'occurrence. Et le premier rendez-vous est pris un matin chez lui.
Bonjour BoJack.
Ah ! Qu'est-ce que vous faites ici ?
Vous m'avez dit de venir à 9h.
Ça me ressemble pas, ça.
Je peux vous lire votre courriel ? Diane, je vous propose de passer mardi à 9h. Je vous conseille de conserver ce courriel parce que je risque d'oublier, parce que je viens de me prendre une grosse dose de kétamine. Soyez sympa, surtout mettez pas dans mon bouquin que je prends de la kétamine. Je m'en fais juste une petite dose le soir pour m'endormir et une méga dose le jour pour tenir le coup jusqu'au soir. Et puis, je suis complètement bourrée et je suis seule. Et à mon avis, après ça, vous avez piqué du nez sur votre clavier parce qu'il y a 27 fois la lettre B puis plus rien.
Ça me ressemble plus.
Alors, j'ai adoré cette série animée parce
que... Ça a l'air super.
Oui, en plus, derrière l'humour se cache quand même une satire du monde médiatique. Des coulisses d'Hollywood. BoJack, le héros, est détestable mais à souhait et attachant parfois parce que quand sa dépression et son désespoir prennent le pas, voilà, c'est assez émouvant. Humour noir garanti évidemment pour une série animée que je vous conseille de regarder en version originale. Vous allez entendre parmi tous les personnages les voix de Ricky Gervais, Whoopi Goldberg et Eva Longoria. Ils sont très nombreux à participer à cette série animée. Il y a 5 saisons qui sont déjà disponibles sur Netflix. Allez-y, vous n'allez pas le regretter.
Donc c'est un certain âge en fait, c'est assez vieux, non c'est...
Alors, c'est assez récent. Et en fait, ils les ont enchaîné les séries. Parce que quand je l'ai commencé, je pensais qu'il n'y avait que deux saisons et que j'étais un peu en retard. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait déjà cinq saisons qui étaient disponibles. C'est vraiment très, très bien. Vraiment, vraiment.
Donc, s'il fait mauvais ce week-end,
vous savez ce qu'il vous reste
faire.
À faire.
Merci.
Céline nous dit que non, pas vraiment.
Ouais. Bon. Ça dépend où vous vous trouvez. Quoi. C'est toujours pareil. Voilà.
Merci à vous trois pour ces bons tuyaux. Et à lundi, les copains, passez un très bon week-end. Europe 1.
Il est 5h56, Julien Pierce.
À suivre dans Debout les copains, la météo triste de Céline Dacosta le journal de 6h de Céline Kahneman. À tout de suite.
Il est 5h58, Julien Pierce.
Céline, retour d'un temps agité.
Oui, surtout du sud-ouest au nord-est avec des averses, des orages possibles, voire des chutes de grêle. Plus calme avec de larges éclaircies entre le Poitou-Charentes et les Hauts-de-France. Ça restera un petit peu plus nuageux avec quelques gouttes sur la Bretagne.
Avec des températures douces.
Oui, c'est vrai, de 22 à 24 degrés. Il en fera 24 à Paris, un petit peu moins sous les nuages et la pluie. Chaud dans le sud-est, hein, 26 à 30 degrés. Très chaud en Corse avec ce sirocco qui va bien souffler jusqu'à 39 degrés attendus à Ajaccio cet après-midi.
Et pour ce week-end ?
Oui, un petit coup d'œil. On en parlait avec Mathieu Charrier. Encore agité demain samedi entre le sud-ouest et le nord-est avec des orages, de bons orages, hein, puisqu'on attend des averses localement soutenues, de la grêle. Encore quelques éclaircies pour le nord-ouest, même si on attend un petit peu de pluie sur la Bretagne. Près de la Méditerranée, là aussi, c'est du beau. Et puis dimanche, retour d'un temps calme à peu près partout. Ça va se stabiliser lundi et mardi avec le retour du soleil. Patience.
Merci beaucoup, Céline Dacosta.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.